Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Nekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons au blocage du processus politique en Centrafrique suite à la contestation du gouvernement issu de l'accord de paix de Khartoum et la rencontre du 18 mars prochain entre les signataires du dit accord à Addis Abeba. En effet, publié le 3 mars passé, le nouveau gouvernement d'union de Firmin Krebada a enregistré à ce jour deux démissions officielles et quelques empêchements de certains ministres issus des groupes armés à prendre fonction. Une situation qui semble bloquer le processus politique en Centrafrique. Dans cette optique, une rencontre est donc convoquée le 18 mars prochain à Addis par l'Union africaine pour faire le point sur la crise née de la formation de l'actuel gouvernement inclusif de Firmin Krebada. Pour ce faire, des leaders de certains partis politiques ont publié mardi à Bangui une déclaration commune pour faire connaître leur position. URCA, KNK, Patrie et RDC, quatre partis politiques de la majorité de l'opposition sollicitent de l'Union africaine la souplesse dans le traitement du dossier centrafricain. Ils invitent, je cite, le panel des facilitateurs à faire montre de créativité et à rester constamment à l'écoute des circonstances de l'environnement et des évolutions politiques dans le pays pour adapter ce schéma de façon dynamique et appropriée. Fin de citation. Joint par Radio Nekeluka, le ministre porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaki explique que le gouvernement est resté logique avec les articles de l'accord et le Premier ministre poursuit les discussions avec les groupes armés dans le cadre de la mise en œuvre du dit accord. Question, quel scénario aujourd'hui pour concilier les positions du gouvernement, des groupes armés, des partis politiques et de la société civile? La République centrafricaine ne doit-elle respirer aujourd'hui qu'au rythme des groupes armés? Quel statut donne-t-on à ces groupes aujourd'hui en Centrafrique? Pour en parler, je reçois autour de la table M. Aristide Briand-Roboise, président du Parti chrétien-démocrate en abrégé PCD. Il est ancien directeur général des renseignements, expert en matière de droits de l'homme auprès de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine pour la lutte contre la LRA, écrivain, observateur politique. Monsieur Aristide Briand-Roboise, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tous les auditeurs.
Monsieur Maïtar Dimarem, président de l'Union démocratique du peuple pour le progrès en abrégé UDPP. Monsieur Maïtar Dimarem, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Ibrahim Hassan Fredé, point focal de la communauté Santé Dijon en Centrafrique, membre du secrétariat technique de l'initiative africaine, leader de la société civile. Monsieur Ibrahim Hassan Fredé, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Herman Nambona, la technique, Hippolyte Marbois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Nekeluka.
Première question à vous, Monsieur Briand-Roboise. Le processus politique en Centrafrique est bloqué. Certains groupes armés et partis politiques refusent de siéger dans ce gouvernement qu'ils jugent de non inclusif. Que vous inspire une telle situation?
Merci beaucoup Hippolyte. Je voudrais tout simplement vous dire que je ne dirai rien de nouveau, que j'avais déjà dit. Cette situation naturellement m'inspire le dégoût. Et non seulement je ne suis pas à titre personnel surpris de la manière dont les choses se déroulent. Vous savez, je ne vois pas les choses comme les autres. Du haut de mon expérience et du haut de tout ce que j'avais prédit depuis plusieurs années déjà. Et que si vous allez à la page 27-28 de mon livre, le premier livre, vous trouverez la réponse à tout. Et donc, je ne voudrais pas vous dire pour vous empêcher d'acheter et de me faire de l'argent. Puisque tout est question d'intérêt.
Absolument.
Ceci étant, pour couper court, moi, je ne me fie pas aux déclarations des uns et des autres. Ce qui m'importe,
c'est... Des uns et des autres, c'est-à-dire les groupes armés, voilà, et les politiques.
Hein. Voilà. En fait, on est tous dans un jeu de tourbillon. Ou quand quelqu'un parle, il faudrait déjà essayer de chercher à savoir ce qui se cache derrière. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, s'il fait un communiqué avec une capacité rédactionnelle d'un agent de maîtrise, c'est à celui qui est derrière et qui écrit, qui l'inspire. C'est celui-là qui est intéressant pour nous. Ça, c'est un jeu où on a l'impression qu'il y a un fantôme quelque part qui hante les gens, qui leur demande de bouger dans le sens de son intérêt et que, naturellement, c'est quand même pas plaisant pour un homme de parler, de dire des choses et de revenir systématiquement à chaque fois sur sa parole. Et c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et dans l'état actuel des choses, je pense que, parlons de contestation pour l'instant, la contestation vient du fait que le troisième acte qui a été posé, c'est-à-dire la nomination des membres du gouvernement, ont été contestés, sachant que bien avant, il y a eu deux comités qui avaient été mis en place, c'est prévu dans les accords, la nomination effectivement du Premier ministre Firmin Grébada, et que tout ça là, c'était des points d'accord. Donc malheureusement, on n'a pas parlé beaucoup des accords. Ça veut dire que dans les désaccords du gouvernement et des groupes armés, ils sont au moins d'accord sur leurs désaccords sur quelques points. C'est-à-dire le comité qui a été mis en place, la nomination du Premier ministre qui a été saluée et personne n'a respecté, personne n'a contesté. Là maintenant, c'est une question où il faut voir. Les gens ont été désignés pour certains par les groupes armés. La raison pour laquelle il y a eu cette démission, il y a eu des pressions. Eux aussi, ils ont des pressions. Il y en a qui ont même envoyé 20 noms, 50 noms, et c'est lui qui n'a pas vu son nom. Et que donc, il y a des contestations même au niveau des groupes armés avec des risques d'implosion. Et donc, pour eux, c'est stratégique de retirer les personnes désignées pour être sûr que ce retrait va contenter tout le monde.
Oui, mais est-ce que c'est logique de vouloir se faire représenter à un nombre, sachant qu'il y a plusieurs entités qui doivent composer ce nouveau gouvernement?
Mais il n'y a rien de logique dans tout ce que nous vivons. Cette situation, il n'y a rien de logique dedans. L'essentiel, c'est que le gouvernement puisse être capable de comprendre ce qui se profile derrière et prendre des décisions pour éviter. Parce que cette situation agace non seulement le peuple. Aujourd'hui, vous voyez le dialogue de Khartoum, etc. Mais le peuple centrafricain, naturellement, ne veut pas. C'est l'effort du gouvernement. Mais si on essaie de demander ou par référendum pour consulter le peuple, je ne suis pas sûr que personne sera capable d'accepter que voilà qu'il y a des dialogues, etc. Bon, ceci étant, cet accord n'est pas encore moribond. Je pense qu'il faudrait toutefois discuter. Et puis, il y a des dispositions dans les accords qui prévoient, en cas de litige, revenir aux moyens pacifiques, c'est-à-dire le dialogue pour essayer à chaque fois de régler les choses.
Il y a quand même lieu de garder espoir.
Voilà.
Merci, M. Aristide Brun-Rouvois, M. Djemere Maïtar. Aujourd'hui, le processus est bloqué, alors que Khartoum a été salué. Vous vous attendiez à ce blocage?
Merci, je suis un peu d'accord avec mon voisin de droite sur un certain nombre de points. Avant Khartoum, le chef de l'État a réuni les forces politiques et la société civile à la présidence de la République pour leur parler de ce qui allait se passer à Khartoum. Beaucoup de compatriotes ce jour-là avaient beaucoup émis des réserves sur un certain nombre de questions, notamment l'impunité, etc. Mais pour moi, personnellement, je sais que Khartoum, il ne faut pas vraiment faire preuve de trop d'optimisme par rapport à Khartoum, dans la mesure où nous avons vu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs accords ont été signés. Tout le monde a applaudi, tout le monde a chanté l'hymne national. Parce qu'aujourd'hui, on galvaude à peu près, enfin un peu, l'hymne national, parce que c'est un chant qui doit sonner dans le cœur de chaque citoyen centrafricain. C'est un chant qui rassemble, n'est-ce pas? Mais on a toujours chanté l'hymne national après les accords. Mais une fois qu'on arrive à la base, les accords éclatent, même quand on reste encore dans l'avion, les accords sont déjà violés. Et Khartoum a été un très grand espoir pour les citoyens centrafricains qui, enfin, pensaient sortir de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ouais. Malheureusement, Khartoum a été déjà violé avant même que les signataires à Bangui n'apposent leur signature. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays-là. Et les groupes armés, ils ont une logique que nous ne maîtrisons pas tous. Moi, je vais vous dire qu'à l'époque, sous le régime Kolingba, j'étais avec mon grand frère Rékian. Nous étions avec les rebelles dans la brousse pendant à peu près 2 ans pour qu'ils sortent. À l'époque, on ne parlait pas de DDR, ni de quoi que ce soit, ni des accords. On a réussi à leur faire déposer les armes sans un centime. Mais non, ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que c'est une expérience qui m'a permis d'être toujours méfiant dans ce genre d'accords, de discussions avec les groupes armés.
Vous voulez dire que c'est pas la bonne méthode adoptée jusque-là?
Vous savez, les gens qui ont pris les armes, ils sont forcément hors la loi. C'est-à-dire que c'est des gens qui contestent l'autorité établie, n'est-ce pas? Et ils ont eu une logique à eux. C'est des gens ils peuvent dire que le micro que j'utilise aujourd'hui, là, actuellement, c'est rouge.
Ouais, et que moi, ça, je c'est leur logique.
Oui, je vois que c'est noir, mais c'est rouge. Donc, il faut que les négociateurs rentrent dans leur propre logique pour comprendre ce qu'ils veulent. Et là, tout irait pour le mieux. Or, ce n'est pas toujours le cas et plusieurs accords ont été violés et ça ne marche pas. L'accord de Khartoum qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on voulait absolument, coûte que coûte, rentrer à Bangui avec un accord en main, hein, dans le sac. Or, ils ont oublié pas mal de choses. Donc, il y a plein de contradictions. On a dit que la paix n'a pas de prix, qu'il fallait absolument, même s'il faut violer la Constitution, il faut le faire.
Pour sauver la paix.
Oui, il faut sauver la paix. Bon, la Constitution a toujours été violée. La Constitution du 30 mars 2016, elle est la Constitution la plus violée de toutes les constitutions centrafricaines, de mon point de vue. Et pour aller vite, lorsqu'on a signé, peu importe la qualité de cet accord-là, mais lorsqu'on a signé, on devrait en fait discuter sur la clé des répartitions des postes.
Oui, justement, j'ai une question dans ce sens, mais nous allons y revenir après avoir écouté la société
oui,
civile.
Oui, bon, donc hein. je reviendrai là-dessus.
Oui, oui, bien sûr, okay, bien sûr, je reviendrai là-dessus. Justement, sur cette question hein, de l'accord de Khartoum qui a suscité un espoir pour le peuple centrafricain et aujourd'hui, tout le monde est pratiquement déçu. Est-ce que vous avez le même sentiment, Monsieur Hassan Frédé?
Merci Hippolyte, je t'assure que j'ai le cœur qui saigne. Ça me fait très mal qu'aujourd'hui on revienne ici et qu'on parle encore de blocus au niveau de l'accord paraphé à Khartoum et signé à Bangui. Ça me fait mal de voir que c'est l'image de notre pays qui est en train d'être détériorée partout dans le monde. En réalité, cet accord ne devait pas poser problème. Du moment où tous les acteurs ont été préparés, bien avant d'aller même à Khartoum pour négocier cet accord. L'accord dont il est question ici a été longuement préparé, laborieusement négocié et mis en forme par des diplomates expérimentés. Des administrateurs chevronnés, les mots, les virgules ont dû être choisis par des experts rompus à ce type d'exercice. Je suis le membre secrétaire technique de l'initiative africaine. Et depuis la mise en œuvre de la feuille de route de l'initiative africaine, des mesures ont été prises à la formation de l'équipe gouvernementale, à la formation de groupes armés et à la formation de la société civile par rapport à cet accord. Et aujourd'hui, on se retrouve encore, ça ne va pas du côté de Khartoum, on revient à Bangui, les choses ne sont pas respectées et on continue à parler mal de la Centrafrique. Et moi, ça vraiment, ça me fait très mal. Ouais. Ça me fait très mal. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, on revient, on dit qu'il y a blocus quelque part. Les groupes armés ne sont pas d'accord, les autres partis politiques ne sont pas d'accord, Hippolyte. L'équipe de panélistes qui ont fait le tournée, nous au niveau du secrétaire technique, techniquement c'est nous qui faisons le travail. Nous nous réunissons deux fois par semaine à la MISAC pour élaborer des plans pour les facilitateurs, descendre sur le terrain, recueillir les recommandations de groupes armés. Et nous avons fait le travail de classification, nous avons classifié toutes les recommandations en quatre colonnes. Après avoir classifié les recommandations, nous étions à boire pour l'atelier d'harmonisation des revendications des groupes armés. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant trois jours à boire pour harmoniser les revendications des groupes armés. Au départ, c'était 136 revendications. Et à boire, nous avons discuté avec les groupes armés. On a pu élaguer 32 revendications, qui restaient 104 revendications.
Oui, 104,
et sur les 104 revendications, c'est ça qui a été document de dialogue. Et nous avons faire la mise en forme et remettre officiellement le document au président de la République. Voilà le document final des revendications des groupes armés. Le président, à son tour, il a mis en place une équipe de 15 ministres qui ont travaillé sur les revendications des groupes armés. Et compte tenu de ceci, après, il a signé un décret pour mettre en place l'équipe de négociateurs du côté du gouvernement. Une fois que la liste est arrivée à nouveau du secrétaire technique, maintenant, il faut préparer aussi l'équipe gouvernementale. Ils étaient en Afrique du Sud. On les a préparés en technique de médiation. Après Douala, ils ont été préparés à l'équipe technique de médiation. Et à Bangui, ici, par ONG Accord, pour préparer aussi. Le CDH, à son tour, prépare les groupes armés au dialogue. Saint-Edidio s'est focalisé pour informer, sensibiliser la société civile sur l'origine du processus et les étapes à faire. Ça, c'est l'ordre de Saint-Edidio. Donc, gouvernement, groupes armés, la société civile, tout le monde sait ce qui se passe, l'origine du processus et qu'est-ce qui reste à faire. Tout est mis en place. Maintenant, à la dernière minute, le 8 janvier, moi je vois qu'il y a quand même un dysfonctionnement dans ce qui se passe. Le 8 janvier, qu'on nous a informé qu'il y a Ismaël Cherghi et Jean-Pierre Lacroix qui seront à Bangui
Et c'est en ce moment-là que dans la salle, que tout le monde s'est rendu compte que le dialogue aura lieu le 24 janvier à Khartoum. Les gens ont été surpris.
Pourquoi ? Parce que vous vous attendiez à ce que ce dialogue-là ait lieu à Bangui.
Il devait avoir une retraite des panélistes qui devait préparer aussi les panélistes à ce dialogue. Parce qu'il y avait un rôle de simulation. Le gouvernement a joué ce rôle de simulation. Ici même à Bangui, où l'équipe de gouvernement était partagée, d'autres ont joué le rôle des rebelles, d'autres ont joué le rôle du gouvernement pour voir ce qui se passe réellement le jour du dialogue. Les groupes armés aussi ont joué ce rôle de simulation. Maintenant, il reste aux panélistes. On était prêts à envoyer les billets d'avion pour que les panélistes viennent à Bangui. Du coup, on nous informe le dialogue sur le 24 janvier, mais on est quatre les panélistes. Ceux qui ont fait trois fois les provinces pour rencontrer les groupes armés, on a écarté les panélistes.
On les a mis de côté.
Maintenant, l'Union africaine, cher Guy, pilote les choses. On arrive à Khartoum. Voilà, on revient à Bangui. Moi, je vois que la nomination de Firmin Grébada en tant que Premier ministre, il n'y a pas eu de contestation du côté des groupes armés. Ils l'ont félicité même. Le FDPC était l'un des premiers groupes à féliciter la nomination de Firmin Grébada. Mais le problème, c'est quand la liste du gouvernement a été dévoilée, c'est là où ça crée tout le problème.
Mais alors, justement, c'est là où se trouve le fondement de ce débat aujourd'hui.
C'est là.
Tous les groupes armés voudraient avoir combien de membres dans ce gouvernement qui ne doit compter qu'une trentaine de personnalités.
Pour les groupes armés, le gouvernement n'a pas le droit de faire deux poids, deux mesures. Groupe armé sur groupe armé. Aujourd'hui, quand vous voyez sur les 14 groupes armés, ceux qui ont eu des postes dans le gouvernement et ceux qui n'ont pas eu de poste au gouvernement, il y a des équilibres. Il y a le MPC, il y a le UPC, le FPRC. Un peu R.J. Sayo qui a eu quand même poste, quelques postes. Et les autres se disent, mais nous alors, on prend ceux qui sont actifs sur le terrain. Nous, on n'a pas de place, on ne peut pas accepter. Prenez par exemple la position de FDPC, qu'ils étaient le premier à féliciter le gouvernement, premier à féliciter le Premier ministre. Ils se rendent compte qu'on les a oubliés.
Ça montre que tout le combat aujourd'hui sur le terrain,
c'est seulement avoir une place.
D'intégrer le gouvernement.
C'est d'intégrer le gouvernement, avoir une place pour vraiment tout le monde doit être là et que non, pourquoi pas nous, pourquoi les autres. Alors que nous sommes tous appelés groupe armé.
Merci à vous, monsieur Frédé, pour cet éclairage justement sur ce point précis. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes armés peuvent se prévaloir de mener la lutte de l'intérêt général ou encore, voilà, de la paix, comme ils prétendent le dire?
Non, moi, franchement, ça ne m'étonne pas et ça ne me surprend pas. C'est-à-dire, le but final recherché des groupes armés, finalement, c'est d'avoir seulement un poste.
Absolument.
Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on avait 100 groupes armés? Qu'est-ce qu'on va faire si on avait 200? Mais la question aussi que je voudrais aussi poser et répondre en même temps, le doyen Maïtar avait parlé de son talent de négociateur. Non, mais
c'est
un talent.
C'est une expérience.
C'est une expérience réussie. Avec le doyen Rekia, et tous ces deux doyens, je respecte énormément parce que c'est des modèles à suivre pour moi. Et que, naturellement, vous êtes parti négocier à Pawa à l'époque de Kolimba. Mais vous êtes parti, vous savez pourquoi vous avez eu le succès? Parce que c'était une rébellion centrafricano-centrafricaine. C'était des fils du pays. Vous êtes partis parler avec eux en patois. Vous avez utilisé tous les moyens. Et ils ont compris que l'intérêt, c'est d'avoir un pays en paix. Mais or, on est face à une problématique de rébellion formée avec des puissances étrangères, de l'intelligence étrangère.
Ça dépasse les frontières centrafricaines.
Voilà, qui dépasse les frontières centrafricaines et qui a mis même le problème d'interprétation. Aujourd'hui, on était parti d'abord pour commencer par essayer de faire croire à une forme de problème de religion. Vous avez vu, à la fin, il n'en est rien de tout ça. On a seulement mis les spectres d'affrontements religieux. Après, il se trouve que ça n'a jamais été le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils cherchent maintenant à voir. Bon, tout simplement, il faut comprendre que pour eux, j'adresse un message que c'est impossible de satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont là, des spécialistes qui peuvent aussi apporter, mais qui ne peuvent rien faire. Il y a des gens aussi qui, naturellement, sont formés, qui sont prêts pour aider, mais qui ne peuvent pas, mais qui comprennent.
On a vu les jeunes sortir dans la rue avec les copies de leur diplôme.
Mais tout ça, effectivement,
dénoncer cette situation.
Et donc, naturellement, il faudrait trouver un autre moyen, une autre stratégie de voir ces choses-là. Parce que je trouve que les rebelles que vous voyez, tous ceux qui portent les armes, qui sont là en train de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est tout ça, c'est des victimes pour moi. Ce qui se cache derrière, c'est ce qui nous intéresse. La RCA, pour moi, est un sujet de relations internationales de par son appartenance à la communauté internationale. D'abord, hein, et le deuxième, doublement sujet de relations internationales, et le deuxième sujet, c'est parce qu'il regorge beaucoup de richesses. S'il n'y avait pas toutes ces richesses en République centrafricaine, on ne se serait pas là. Et à qui profite la crise centrafricaine? La question qui doit être posée.
À tout le
et
monde,
si on pose des vraies questions, on trouvera de bonnes réponses. Absolument. Et pour finir, ouais, par seulement, est-ce que les revendications, je pense que M. Hassan avait fait part de ses travaux techniques avec pédagogie, mais effectivement, est-ce qu'entre-temps, les rebelles ont dit toute la vérité sur leurs intentions?
C'est encore une voilà, autre grande question.
Et donc, c'est ce qu'il faut essayer de savoir. Et puis, de deux, mais est-ce que, franchement, ce qu'ils ont revendiqué, c'est ce qu'ils veulent? Parce qu'il y a des gens, cette crise-là, la seule entreprise qui marche très bien ici, c'est le groupe Rebelle. Tu sors avec deux AK, tu fais un nom, et puis tu as... Et donc, ça marche. Tu vois, et ça permet de voyager, de rencontrer des autorités, etc.
Malheureusement, ce n'est pas un bel exemple pour la jeune génération.
Mais non, bien
merci
sûr.
À vous, M. Brian Roubois, M. Maïta Djimarem. Aujourd'hui, hein, c'est vrai, tout à l'heure, on a parlé de le fait que le processus politique soit aujourd'hui bloqué, c'est que tous les groupes rebelles voudraient avoir au moins un représentant dans le gouvernement qui est mis en place aujourd'hui. Il se pose justement cette question de clé de répartition. Vous pensez que le gouvernement Gribada n'a pas bien géré ou encore n'a pas bien pris en compte cet élément?
Je voudrais justement m'étendre un peu sur le problème de clé de répartition lorsque vous m'avez interrompu. Ouais. Mais en fait, quand on est dans un dialogue, quand on se met d'accord sur un certain nombre de choses, chacun a accepté les termes. Donc, dans l'application, dès l'instant où on remarque qu'il y a dysfonctionnement, il y a dysfonction dans l'application, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il y a forcément, ça va entraîner des contestations. On était d'accord pour signer l'accord pour Parafé, puis signer à Bangui. Mais on a oublié justement de s'attarder sur la question de clé de répartition. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que chaque signataire aura un ou deux membres au sein du gouvernement, etc.? Ça, c'est très important. Et là où le bas blesse, c'est justement parce qu'on a écarté à peu près 8 groupes armés qui ne figurent pas dans le gouvernement. Or, le gouvernement Gribada n'est pas responsable aujourd'hui de cette situation puisque c'est un gouvernement qui est nommé après. Mais donc, c'est le Premier ministre et le chef de l'État qui devraient veiller à la stricte application des termes de l'accord de Khartoum. Hein, qu'on dit accord de Bangui, mais en fait, ça a été négocié et paraphé à Khartoum. Donc, c'est assez.
Vous voulez parler de l'ancien Premier ministre?
Non. Non, ce n'est pas l'ancien Premier ministre qui est invité à former le gouvernement, c'est le nouveau.
Absolument, d'accord.
Voilà, donc c'est le nouveau qui devrait être avec le président de la République pour former le gouvernement. La clé de répartition n'existe pas, parce que dans l'accord, on parle d'un gouvernement inclusif. Ça veut dire que les partis, ceux qui étaient là dans le dialogue, dans la discussion de Khartoum, devaient figurer dans le gouvernement. Il ne faut pas qu'un seul reste dehors. C'est pour ça qu'on parle de gouvernement inclusif. Or, on se rend compte que l'ancien gouvernement est resté en place à peu près à 75%. Hein? Alors, il y a 14 groupes armés. C'est facile de dégager 14 postes pour ces groupes armés-là. Aujourd'hui, on n'en serait pas là.
Quelles que soient les compétences, il faut montrer quand non, même qu'on est un gouvernement de compétences.
Mais oui, mais il y a des cadres dans ces groupes armés. Il y en a qui sont tapis ici à Bangui ou à l'étranger. Il y a des cadres dedans. Vous lisez les déclarations, même si
M. Roubois l'a évoqué tout à l'heure.
Oui, il a évoqué qu'il y a derrière...
Il y a
des cerveaux derrière. Mais ces cerveaux-là, on peut les utiliser.
Mais
moi, je pense que...
Absolument.
Absolument. En participant au gouvernement, ils se dévoileraient. Hein, ça, c'est forcé. Mais en tout cas, pour moi, je dis que dès l'instant où on a accepté de violer notre constitution, pour aller vers ceux qui ont pris les armes contre l'autorité publique. Alors, il faut boire le vin jusqu'à la lie. Alors, on s'est arrêté parce qu'il y a eu des pressions, semble-t-il. Parce que moi, je n'étais pas mêlé à la formation de ce gouvernement. Je ne peux pas affirmer de manière formelle. Je sais qu'effectivement, il y aurait eu des pressions de telle sorte qu'il y a un certain inamovible qui ont été maintenues au détriment des groupes armés.
Et cette pression, ce qui se passe aujourd'hui, elle se poursuit. Je ne vous interromps pas.
Oui, vous m'avez interrompu en effet.
Je m'en désole. Aujourd'hui, justement, la pression se poursuit et on entend aujourd'hui parler d'une prochaine rencontre à Addis Abeba. C'est prévu pour le 18 mars prochain, monsieur Hassan Frédé. Est-ce que vous croyez aux chances de la réussite de cette rencontre? Voilà, parce que une fois, je me souviens, sur ce plateau, j'ai posé la question au groupe rebelle pour dire, revenant de Khartoum, est-ce qu'on n'aura plus un Khartoum 2? Ils m'ont dit non, c'est la dernière ligne à ne pas franchir. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes en route de Addis.
Effectivement, il y aura Addis le 18. D'abord, certaines délégations commencent à partir déjà sur Addis Abeba. Addis va réussir seulement si les deux parties ont vraiment la volonté. Si vraiment les signataires ont besoin que la paix revienne en Centrafrique. Parce que je reviens un peu en arrière, avant d'aller même à Khartoum, il y a certains groupes armés qui ont déjà porté et disent qu'ils ont des préalables. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que l'atelier d'harmonisation de l'organisation du groupe armé qui a eu lieu à Boire le 28 août 2018 et jusqu'à janvier 2019, il y a eu des choses qui s'est passées sur le terrain et qu'eux ne sont pas d'accord. Arrivés à Khartoum, peut-être ils vont modifier certaines de leurs revendications. Je dis que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que réellement vous aimez votre pays? Si tu es vraiment centrafricain, tu dois quand même faire sacrifice. Mm-hmm. On doit se sacrifier pour ce pays. Et effectivement, à un moment donné, vous avez tous écouté qu'il y avait blocus au moins 48 heures à Khartoum.
Oui, oui.
Sur la question d'amnistie, sur la question d'autonomisation, sur des choses qu'on n'allait pas comprendre. Et même jusqu'à sur la question du poste de Premier ministre. Et c'était clair que le problème au niveau du poste de Premier ministre, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
Absolument.
Ça, c'est la constitution qui lui donne le pouvoir de nommer la personne qu'il veut. Et il a fallu essayer d'échanger, discussion avec ces groupes armés pour qu'ils reviennent à la raison. Maintenant, ça n'a pas marché. Il y a les démissions en cascade. Ceux qui ont eu des postes, il y en a qui sont encore restés en province et n'ont pas pu venir prendre leur poste. On nous parle maintenant de Addis. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça, c'est un voyage inutile.
Encore des dépenses inutiles.
C'est des dépenses encore inutiles d'aller à Addis Abeba. Peut-être, qu'est-ce qu'ils vont dire à Addis Abeba? De demander au Premier ministre de revoir encore le gouvernement? C'est ce qu'ils vont demander? Ou bien de dire aux groupes armés: non, calmez-vous, il y a des postes de ministres conseillers, il y a encore des postes à la présidence. C'est ça qu'on va leur dire.
Et ça, est-ce qu'on a besoin d'aller à 10 pour
on
le dire?
On n'a pas besoin d'aller à 10 pour ça. Mais comme les partenaires, c'était bien stipulé dans l'accord, si ça ne va pas, il faut faire recours. Mais d'abord déjà, certains groupes armés ont violé l'article 34 déjà de cet accord. Il y en a qui ont déjà fait recours aux armes.
Mmh. Alors, on peut pour illustration, le blocage voilà, de l'axe...
Le blocage de l'axe du corridor Bangui-Garamboulaï ou Beloko-Garamboulaï. Ça, c'est déjà la violation de l'article 34 de l'accord. Qu'est-ce que l'Union africaine a prévu le plan B? À mon humble avis, il faut aller à 10 et dire la vérité aux groupes armés. Qu'est-ce qui a été dit? Après la signature de l'accord, il n'y aura pas un groupe qui va faire recours aux armes. Le groupe qui va faire recours aux armes sera considéré comme une force négative et sera neutralisé par tous les moyens. Mais il faut l'appliquer.
Ouais, alors, aujourd'hui, c'est aussi une autre question.
Il faut aller à Addis Abeba, leur dire la vérité. Mm-hmm. Vous avez posé vos mains sur ce document. Vous avez signé. Mais alors, il faut respecter. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe encore dans le pays. À Bangui, aujourd'hui, les denrées alimentaires commencent à augmenter. Les prix commencent à augmenter. D'ici une semaine, il n'y aura plus même l'huile sur le marché. Ni les farines, ni les poissons, les œufs, rien. Et parce que le FDPC a bloqué la route.
On s'achemine vers le pire.
Parce que pour le FDP, c'est le seul moyen de pression sur le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas respecté l'accord, nous, on bloque la route. Et on est en train de décanter la situation. Depuis presque une semaine qu'on est en contact avec nous en tant que partenaires, de dire à Abdoulaye Miskine et Brazzaville d'alléger un peu la souffrance du peuple centrafricain. Si réellement qu'il est centrafricain, il aime son pays, on est en train de le dire. Et hier, il a donné des instructions pour que les camions congelés,
des vivres périssables.
Voilà, périssables, commencent déjà au niveau de Beloko, commencent déjà à pourrir. Il faut que récupérer certaines qui sont encore en bon état pour acheminer vers Bangui. Il a fallu une négociation sur une négociation pour qu'il accepte qu'aujourd'hui, une moitié des camions vont traverser pour venir à Bangui.
Seulement
à Bangui. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aller à Addis Abeba et leur dire la vérité et dire aussi au gouvernement. Parce que ici, qu'est-ce que le président de la Commission de l'Union africaine a dit? Respectez vos engagements. Dieu, Allah, Nzapa vous regarde. Et aujourd'hui, on revient encore à Addis Abeba pour parler encore au président centrafricain. Hippolyte, vous savez ce que
le couloir de diplomatie, c'est que ces gens disent au peuple centrafricain qu'on est fatigué de vous, les centrafricains.
On doit avoir honte.
Il y a même au cadre de l'Union africaine qui dit, vous les centrafricains, vous avez la chance. Si votre pays a la position de Madagascar sur la carte de l'Afrique, on allait vous abandonner. Vous allez vous entretuer. La guerre va finir faute de combattants. Parce que vous exagérez.
Absolument.
Vous exagérez.
Il faut qu'on entende quand même ce message. Oui, absolument. Sur cette question justement de Addis, croyez-vous, M. Ropoas, que Addis est aujourd'hui une nécessité?
Oui, bon, peut-être le lieu, on ne partage pas tous le lieu géographique. Ce n'est pas ce qui est important. Mais comme M. Hassan a dit, il faudrait qu'il y ait un rappel à l'ordre, mais très fermement, par exemple sur les denrées alimentaires qui naturellement sont bloquées et qui tardivement va être libérées, mais qui va poser des problèmes sanitaires aux gens. C'est-à-dire la nourriture ne sera plus propre à la consommation, mais on sera obligé pour beaucoup de consommer et puis il y aura d'autres conséquences que lui, Abdoulaye Miski, ne pourra pas y remédier. Mais entre-temps, je trouve que prochainement, j'espère que l'Addis sera la dernière fois, pour que si jamais il y a des dysfonctionnements selon le non-respect des accords, il faudrait faire recours au système de médiature sur le plan national pour poursuivre la discussion. Parce qu'on ne va pas toutefois dépenser de l'argent, voyager, etc. Alors qu'on ne fait que parler de ça et on laisse de sérieux problèmes. De l'eau, de l'électricité, beaucoup de choses.
Le peuple en soi est abandonné. Voilà.
Et donc, il y a tout ça là qu'il faut voir. Mais moi, tout ce que je souhaite, c'est le bon vent à cette équipe qui va aller à 10 et que j'espère que les gens doivent être fermes sur leur position dans le respect de la loi et de la constitution parce que l'avenir du pays en dépend, l'avenir de nos enfants en dépend pour permettre de créer un espace de quiétude, de libre circulation, de liberté publique et individuelle pour permettre à l'économie du pays d'aller en avant.
Merci à vous, M. Ropoas. M. Maïtar, on a suivi la déclaration de ces quatre partis politiques qui ont demandé à ce que le panel de facilitateurs fasse montre de créativité. Est-ce que cela revient à dire que le modèle proposé par l'Union africaine, ce texte-là qui a été paravé à Khartoum, essayé à Bangui, est caduque, ne saurait s'adapter au contexte centrafricain?
Je voudrais d'abord revenir sur Addis Abeba. Franchement, j'épouse le point de vue des autres en disant que c'est toujours un déplacement de plus. Hein. Mais je n'attends rien, mais absolument rien d'Addis Abeba. Parce que tout a été dit à Khartoum et puis finalisé à Bangui.
Peut-être même avant Khartoum, au forum de Bangui, tout a été dit.
Tout, mais forum de Bangui, c'est même plus que Khartoum. Alors, c'est une question de respect des accords et de paroles données. Maintenant que la situation est ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai posé la question à la présidence à l'époque, quelle serait la solution B si jamais les choses ne marchaient pas?
Apparemment, Khartoum n'a pas prévu un plan B. Hein.
Non, il n'y a pas de plan B.
C'est ce qu'a relevé monsieur.
Et le problème aux centrafricains aujourd'hui, et je rebondis sur ce que Aristide vient de dire, c'est que je l'ai toujours dit, que notre problème aujourd'hui, c'est que les autres pays, les autres puissances mangent leur piment dans notre bouche, comme disent nos amis les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est une guerre qui nous est imposée de l'extérieur. Une bonne partie, et pas des moindres, sont des étrangers qui viennent, alors que par exemple le Niger n'a aucune frontière avec la République centrafricaine, pas plus que le Kony, comment il s'appelle
Joseph Kony de l'Ouganda.
L'Ouganda n'a aucune frontière avec la République centrafricaine.
Et pire encore, le Nigeria.
Le Niger.
Il y a aussi le Nigeria.
Le Nigeria.
On a suivi le petit documentaire posté en ligne par Abdoulaye Miskine qui a cité au moins 8 pays étrangers
qui ont des rebelles en République centrafricaine. Ils se rebellent contre qui? Contre leur gouvernement à partir d'ici ou contre notre gouvernement? Alors, si ce conflit perdure, c'est simplement parce que c'est des étrangers qui n'ont aucun intérêt à ce que cela cesse, parce que pour eux, ça leur permet de piller nos richesses naturelles. Parce que vous savez très bien que la République centrafricaine est considérée, sur le plan géologique, comme l'appendice du Congo démocratique. Vous savez, donc nous avons pratiquement toutes les richesses du sous-sol ici en Centrafrique parce que nous sommes le prolongement du Congo démocratique. Cela dit, en tout cas, moi j'aimerais bien que Hippolyte invite un des signataires de la déclaration parce que les termes dans lesquels cette déclaration a été publiée sont tellement alambiqués que le commun des Centrafricains ne comprendrait pas du tout. Alors, moi j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus explicites. Qu'est-ce qu'ils attendent, n'est-ce pas, de l'OUA ?
Justement, comme on le dit, il y a le texte, mais il y a aussi l'esprit du texte.
Voilà, donc.
Il y a eu des non-dits de carteaux, mais qu'on ne voit pas dans cet accord, hein, monsieur Frédéric.
Oui,
vous avez été au début de.
Oui, Hippolyte, moi je veux revenir un peu en arrière par rapport à Addis Abeba. La rencontre d'Addis Abeba, même si les facilitateurs demandent au gouvernement de revoir la liste du gouvernement, même si on donne 14 places au groupe armé en tant que ministre, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, la Centrafrique. Ce n'est pas ce qui va résoudre le problème de la Centrafrique. Ça, moi, je vous le dis. Il y a d'abord dysfonctionnement entre même les groupes armés et leurs bases. Prenez même 14 personnes, vous mettez dans le gouvernement. Le groupe armé a 14 places, supposons. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Il y a des déphasages directs entre les différents leaders et leurs bases. Les bases ne vont pas accepter, ça va créer toujours problème. Après Khartoum, le premier décret qui a été signé par le président de la République, mettre en place une comité qui a composé 13 membres, 8 places dans le gouvernement et 5 places dans le groupe armé. Ça a suscité des réactions. Le groupe armé entre eux commence à dire non. 5 places, qui va entrer là-bas et qui ne va pas entrer là-bas dans ce comité.
Une autre crise.
Ça crée un problème. Et quel groupe va envoyer 5 personnes pour représenter le groupe armé au sein de ce comité? Ils ont des problèmes entre eux-mêmes. Et si vraiment les groupes armés veulent que vraiment la paix, s'ils sont conscients que le peuple centrafricain a beaucoup souffert et qu'ils veulent absolument que la paix revienne, il faut que tous ceux qui se trouvent dans les différents mouvements de groupes armés reconnus en tant que des mercenaires étrangers doivent quitter le groupe. Tant qu'il y a les mercenaires qui restent dans les différents groupes, il n'y aura pas la paix dans ce pays. Oui. Mettez tout le monde dans le gouvernement. Mais s'il y a des mercenaires, s'il y a des étrangers au sein de ce groupe, il n'y aura pas la paix dans ce groupe.
Oui, cela...
Parce qu'au sein de certains mouvements aujourd'hui, ils sont dominés par des mercenaires étrangers. Ils sont dominés par ceux-là. Et ceux-là ne veulent pas qu'ils lâchent. Si vous lâchez, et que demain, le DDRR, le dernier R nous concerne, on va nous rapatrier dans notre pays respectif, on aura des problèmes. Ne lâchez pas.
C'est
là le véritable problème. Le problème, ce n'est pas entrer dans le gouvernement, ce n'est pas aller à Addis Abeba. Il faut faire en sorte que tous les mercenaires qui sont dans les différents mouvements quittent le mouvement.
Et comment faire? Apparemment, le gouvernement semble être dépassé et a trouvé une solution.
Effectivement, le gouvernement est dépassé. Nous avons là les partenaires. Il faut mettre en place une coordination pour voir dans quelle mesure les Nations Unies avaient recensé avec les experts, les différents mercenaires dans les différents mouvements, dans le groupe armé ici en Centrafrique. L'autre jour, on dit que c'est 7000 hommes. Sur les 7000 hommes, il y a 500 mercenaires. Il y a au moins 500 mercenaires dans le groupe armé. Mais le véritable problème, c'est que ce qui se passe en Centrafrique, derrière les étrangers qui tuent les Centrafricains, se cache un Centrafricain.
Oui.
Nous sommes complices de ce qui se passe dans ce pays.
Absolument. D'accord.
Imaginez-vous, si on fait des recensements, on dit qu'il y a 500 mercenaires qu'il faut chercher à rapatrier. Certains groupes armés qui se disent centrafricains, c'est eux qui se lèvent pour dire non, nous, on n'a pas 5 000 hommes, moi j'ai 14 000 hommes. L'autre sort, moi j'ai 20 000 hommes. Ça, c'est le mauvais foi. Le centrafricain n'aime pas son pays. Nous sommes complices de ce qui se passe dans ce pays et nous allons continuer à souffrir si on se relève, si on ne se lève pas.
C'est très important cet élément. Merci à vous, M. Hassan Fouredé. Justement, sur cette question, M. Aristide Blanc-Roubois, quel est donc le statut qu'on donne aujourd'hui aux groupes armés? Parce que tout se passe comme si rien ne peut fonctionner dans ce pays si on ne compte pas avec ces groupes armés. Est-ce que la République centrafricaine ne doit respirer qu'au rythme des groupes armés?
Non, évidemment, la République centrafricaine a son avenir ailleurs qu'avec le groupe armé, comme tous les États qui aspirent à la paix et à la démocratie. Mais le statut de groupe armé, c'est des criminels. Un groupe armé, c'est un groupe de criminels. Et la place des criminels, c'est en prison. Et si le criminel pose un acte responsable de reconnaissance, de pardon, mais il mérite aussi, de fois, quelque part, d'être pardonné. Il y a des mesures de grâce, etc. Mais tu ne peux pas demander qu'on te pardonne et que tu continues de tuer. Ça, c'est impossible. Donc, il faudrait que la présence de l'État, c'est-à-dire à la lumière de notre discussion, ça me permet d'être conforté dans l'idée selon laquelle que ce schéma-là
nous ne nous amènera jamais à la paix. Il faudrait trouver un moyen d'imposer la paix, c'est-à-dire par l'implantation de l'État dans chaque localité et chaque recoin du pays. Parce qu'effectivement, quand M. Hassan a parlé des centrafricains qui se cachent derrière, c'est vrai, il y a des centrafricains, quand on adhère dans un groupe armé, des fois c'est par peur. Et à part la présence de l'État, les gens arrivent avec des armes. Mais pour protéger ta famille, des fois tu es obligé de rentrer, de faire semblant pour avoir un nom et protéger ta famille. Et ça, il faudrait que l'État reprenne contrôle. Et on doit faire beaucoup de choses que je n'aimerais pas tout dire, mais l'État a le moyen de les faire taire. Je parle en tant qu'ancien patron de renseignement et je sais que l'État doit faire quelque chose et l'État finira par poser un acte pour les contraindre à la reddition. Et ça, l'État a tous les moyens. On peut discuter, mais il y a une limite. Il y a des obligations, il y a des points sur lesquels on ne peut pas transiger.
L'État reste quand même l'État.
L'État reste toujours, et la force, l'État a le monopole de la violence.
Absolument.
Et je pense qu'il faudrait aller dans ce sens. Et aussi, les autorités, les hommes politiques doivent aussi s'engager dans des discours responsables. C'est quand même important. C'est quand même important. Ça dit, tout discours doit désigner la paix d'une certaine façon. Et donc, il faudrait qu'on soit responsable au point de dire que c'est notre faute, nous, les Centrafricains. Nous avons posé des actes, peut-être irréfléchis, qui nous ont mis dans cette situation. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas des hommes matures. On a l'impression qu'il n'a jamais été question de nous. Si ça ne marche pas, c'est les étrangers. Si ça ne marche pas, c'est les autres. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de notre pays ? Et donc c'est important pour les groupes armés à qui je voudrais adresser un message ferme en tant que Centrafricain. Aujourd'hui, si eux qui s'engagent derrière les groupes armés, ils commencent d'abord par dire « Monsieur Abdoulaye Hussein, où est ta femme et tes enfants ?»« Nouredine Madame, où est ta femme et tes enfants ?»« Abdoulaye Miskine, où est ta femme et tes enfants ?» À cette réponse, ils trouveront le courage de se défaire de ces bourreaux. Parce que leurs enfants se trouvent en Europe, se trouvent ailleurs, ils vont dans les écoles. Mais aujourd'hui, ils sont pris en captivité dans une prison à ciel ouvert. Et que les enfants ne vont pas à l'école.
Oui, tous les enfants qui sont nés depuis 2012 voilà, ne connaissent que le langage des armes.
Le langage des armes. Et là, c'est un réservoir. Mais quand on compte déjà 6000 enfants soldats, mais ajoutez à cela, vous allez voir combien de pourcentage. Et donc, c'est quand même important de limiter le dégât. Et nous avons les moyens de limiter le dégât.
Et ces moyens, ce seraient lesquels ? C'est des moyens financiers ? Est-ce que c'est des moyens...
Des moyens stratégiques.
Stratégiques.
Oui, président... Non,
je suis vraiment satisfait de l'analyse de mon frère Hassan par rapport à la question des représentations dans le gouvernement. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que le gouvernement aurait dû donner les 4 et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui sera en position de force. Les 14. Parce que Al-Khatim, je crois, retient en otage un ministre nommé dans ses rangs.
Il y a le PC aussi qui a retenu son représentant.
Voilà, ce monsieur ne devrait pas être... Mais si on envoie 2 ou 3 noms, il faut bien que le président en choisisse un. Et s'il choisit un, par son pouvoir discrétionnaire, je ne vois pas pourquoi le groupe qui a envoyé 3 noms peut contester. Non, mais j'ai envoyé Ali, Hassan et Maïta. Je souhaiterais que ce soit Hassan qui soit là-bas et non Maïta. Non, mais c'est vraiment dingue. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, je reviens à la question. Force reste à la loi. L'État, c'est la force d'abord. C'est la puissance publique. Moi, j'ai toujours dit, mais si les négociations ne marchent pas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va tourner en rond ou on fait quoi ? Il faut demander à chaque Centrafricain s'il aime sa patrie. Parce que le pays, c'est autre chose, mais la patrie, ça, c'est un héritage de nos aïeux. Et mourir pour la patrie n'est pas un triste sort. Ça, c'est Victor Hugo qui le dit en paraphrasant un écrivain latin. En tout cas, moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités en cas d'échec d'Addis Abeba. Parce que Addis Abeba est parti pour connaître un petit échec comme on a connu pour Khartoum.
Vous êtes pessimiste alors ?
Non. Sur ce point-là, absolument, je suis pessimiste.
D'accord.
Comme lui aussi, il est tout à fait pessimiste, Hassan. Hein? Donc, l'État doit prendre ses responsabilités. On fait quoi ? Pourquoi Ali Daras doit rester chez nous ? Parce qu'il faut le dire, il n'est pas de chez nous, il n'a qu'à rentrer chez lui. C'est tout. Il n'a qu'à rentrer chez lui et laisser les Centrafricains entre eux régler leurs problèmes. Et je suis sûr qu'on trouvera toujours un terrain d'entente si on était entre nous, les Centrafricains.
Oui, merci à vous, monsieur.
Moi, je voulais revenir un peu en arrêt par rapport au développement fait par mon frère. Oui, qu'il y a certains Centrafricains qui sont des groupes armés, peut-être par peur. Et moi, je ne suis pas d'avis. Ils ne sont pas dans le mouvement des groupes armés par peur de protéger leur famille. Ils savent bien ce qu'ils font au peuple centrafricain. Le fonctionnement des groupes armés, comme les 14 groupes armés, chaque groupe armé a deux ailes. Ils ont aile militaire et ils ont aile politique. Aile militaire, ce sont ceux qui sont dans le maquis. Mais aile politique, ils ne sont pas avec eux dans le maquis, ils sont avec nous ici à Bangui.
Ceux qui sont toujours masqués.
Et ils sont avec nous à Bangui et c'est eux le dangereux. Et c'est eux le dangereux, ceux qui sont avec nous à Bangui ici. Oui. Ceux qui sont dans le maquis, eux, ils savent seulement manier l'arme. Mais politiquement, leurs représentants, elles, politiques, sont avec nous à Bangui ici. Et c'est eux les dangereux. Donc il faut que le gouvernement prenne cette responsabilité-là pour voir. Moi, à la place du gouvernement, franchement dit, je commence à arrêter des gens à Bangui ici.
Ben oui.
Il faut commencer à arrêter des gens. Ben pour que vous, si on veut réellement que la paix revienne en Centrafrique, il faut commencer. Nous avons des gens ici à Bangui qu'il faut commencer.
Mais ce courage politique manque encore.
Ce courage politique, moi, je ne comprends pas.
Ça manque encore à nos dirigeants.
Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre.
Mais je pense Monsieur Hassan ne m'a pas compris très bien. Parce qu'en fait, ce dont je parle, c'est ceux qui sont militairement sur le terrain. Mais l'aile politique sur ce plateau, j'avais déjà dit, il faut commencer d'abord par interdire les vitres fumées ici à Bangui. Ils sont ici au col blanc. C'est ceux-là qui dînent de foi avec le gouvernement. C'est ceux-là qu'il faudrait arrêter. Et c'est ça, par le passé, j'ai eu le courage de le faire. Et si on me demande de refaire, je le referai. Et je pense que ce n'est pas impossible qu'ils aillent d'abord, qu'ils reviennent, et que s'ils parlent chinois là-bas, on peut aussi trouver un moyen même de parler vietnamien.
C'est une question de sécurité nationale.
Mais il y aura la solution quand même.
C'est une question de sécurité nationale.
Voilà.
Alors, justement, nous allons donc terminer ce débat aujourd'hui. Hein, nous l'avons dit, le processus politique coince. Quel est le scénario idoine, un scénario qui s'adapte au contexte centrafricain pour concilier aujourd'hui les positions du gouvernement, des groupes armés, des partis politiques, de la société civile. Je suis d'accord, hein, quand vous interpellez le centre de responsabilité des politiques en Centrafrique, aujourd'hui, c'est quoi le scénario qui s'adapte pour qu'on n'entende plus parler de Khartoum, d'Addis ou encore, je sais, de Brazzaville, de Libreville, Monsieur Roubois.
Par rapport au scénario, ça, j'ai pris le temps de réfléchir un peu sur le scénario et ce que je pense pour concilier les positions du gouvernement des autres protagonistes, selon les réactions enregistrées, alors il faudrait revenir à la loi, revenir à ce que disent les accords, revenir se ressourcer par un courage patriotique. Parce que tout ce que nous voulons, vous allez finir par comprendre que nous voulons tous la même chose. Que ce soit les militaires, les politiques, les groupes armés, on aspire tous
à la paix.
À la paix. On aspire tous à vouloir un devenir meilleur pour nos enfants. Et donc, maintenant, côté gouvernement et côté politique de l'opposition, je pense que, d'après ce que moi je sais sur cette crise c'est un scénario qui est écrit à un niveau tellement élevé et que même le gouvernement, les groupes armés, l'opposition politique ne sont pas à la hauteur de renseignements qui existent. Et les gens travaillent, ils gèrent seulement les informations. Parce que pour changer effectivement dans ce pays, il faudrait commencer d'abord par créer une agence nationale de renseignement pour que le renseignement existe en tant qu'institution. Le renseignement a toujours existé comme un bureau provisoire où on met d'une manière ponctuelle au service ou à solde d'un régime. Il faudrait que nous faisons de telle sorte que le renseignement soit là. Parce qu'on a besoin de renseignements, pas des informations. Il y a trop de manipulations derrière. Il y a trop de manipulations. Et pour conclure définitivement, il faudrait repartir loin. Vous voyez, l'uranium, c'est ça qui nous crée tout le malheur, d'une certaine façon. L'équilibre du monde dépend d'une certaine façon de ce qui se trouve sous notre sous-sol. Si tu t'appelles monsieur centrafricain, monsieur nigérien, monsieur congolais,
c'est par rapport à ton lien au sol.
C'est des pays qui sont sous l'observatoire international de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a sa raison d'exister que par ses richesses. Et ça apporte de l'argent, ça fabrique ce qu'on appelle l'arme atomique. Et aujourd'hui, entre les États-Unis et la Russie, la guerre est relancée. nous sommes dans le climat de ce qu'on appelle la guerre froide et avec des conséquences directes dans notre pays. La Russie, la Chine, quoi encore, d'autres vont vouloir s'approvisionner dans les moyens, je ne sais pas comment, pour pouvoir assurer leur superpuissance. Parce que le terme de la dissuasion nucléaire ne tient plus. Il y a la guerre entre l'Inde et le Pakistan, il y a ce qui se passe avec le bouclier antimissile, ça veut dire qu'on est plus sûr que l'arme n'est pas une arme de non-emploi. Et donc tout ça là, pour avoir la masse critique nécessaire pour déclencher la réaction nucléaire, c'est l'uranium. Et cela se trouve chez nous en République centrafricaine. Et que dans le désordre, certaines personnes avec la nouvelle technologie peuvent pomper l'uranium.
Absolument.
Vous voyez, donc c'est quand même important de comprendre ces enjeux géopolitiques et d'être, et le sentiment nationaliste fort est un instrument puissant pour permettre de soutenir comme un seul homme et de se mettre dans la tête qu'à partir d'aujourd'hui, on doit se taire et puis voir les choses. Cependant, il faudrait de renseignements.
Merci à vous, monsieur Arissé Brun-Roubois, monsieur Maïtaïr Dimarem. Quel est votre scénario pour que nous sortions de cette crise définitivement?
Je crois que nous avons déjà tout dit. Quel scénario? Parce que est-ce remettre en question le gouvernement de M. Grébada ou le maintenir? Mais le remettre en question, c'est en quelque sorte de fragiliser ce gouvernement-là. Même le président de la République sera fragilisé. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Le frère Hassan vient de dire que dans les groupes armés, il y a des étrangers qui, eux, ne veulent pas que les choses changent. C'est eux-là qui sont aujourd'hui responsables.
Donc, il faut les dénoncer.
C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut les dénoncer, mais on a parlé de l'uranium ici, mais l'uranium existe aussi au Niger. Ça n'a jamais donné lieu à des...
Si, il y a la crise au Sahel.
Non, mais, au Sahel, mais pas directement.
Le Niger fait partie. Ouais.
Oui, mais le Sahel, c'est plusieurs pays réunis. Mais chez nous, la RCA, c'est un ventre mou de l'Afrique en quelque sorte. C'est pour ça que les gens viennent. Hein, vous avez des petits avions atterrissent et repartent sans que la tour de contrôle... Donc, moi, je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Le gouvernement va à Addis Abeba pour répéter là-bas que tous les Centrafricains doivent savoir que le peuple centrafricain souffre depuis plusieurs décennies. Et qu'aujourd'hui, abréger cette souffrance-là sera vraiment un acte patriotique en direction de cette population-là. Nous avons besoin d'avancer grâce à nos richesses naturelles, mais nous piétinons, ou plutôt nous reculons. Alors moi, je pense que l'État centrafricain doit prendre ses responsabilités, quitte à même aller, parce que Aristide vient d'utiliser un mot stratégique, mais mener la guerre. Il faut le dire, parce que vous dites stratégique. Vous dites stratégique, il y a beaucoup de Centrafricains qui ne comprennent pas ça. Il faut dire que si ça ne marche pas, allez, on fait la guerre. Point. C'est ça qu'il faut pour que Ali Daras quitte notre territoire.
Merci à vous, M. Maïtaïr Dimarem, M. Hassan Fredou. Nous terminons avec vous. Le scénario, il donne pour mettre terme à cette crise.
Merci Hippolyte. Le scénario pour mettre terme à cette crise, c'est qu'il faut, voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ce blocus politique par rapport à cet accord, il y a des gens qui restent au coin et qui applaudissent, qui disent que c'est bien fait pour eux. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Le fait que le dialogue a eu lieu à Khartoum, les bleus blancs rouges ne sont pas contents. Ce n'est pas l'avis des bleus blancs rouges. Ils ne veulent pas. Et que pour eux, aujourd'hui, c'est un échec de la Russie. Addis Abeba, c'est les bleus blancs rouges qui auront l'influence. Ce qui va le passer à Addis Abeba, ça, moi, je vous dis. Donc, c'est la guerre de positionnement. Et que c'est nous, le peuple centrafricain, qui en pâtissent.
Bien sûr. Quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent.
Voilà. C'est la guerre de positionnement. Ils ont commencé à activer tous leurs réseaux pour dire, ok, il faut boycotter ça, il faut boycotter. On va voir ce qui va se passer à Addis Abeba. Moi, je dis à Addis Abeba, même on fait comment, même si on dit à Addis Abeba là-bas, écoute, Firmin Grabada, vous devez démissionner. On amène quelqu'un issu de rang des groupes armés. Ce n'est pas ça aussi qui va résoudre le problème du Centrafricain. Ce n'est pas ça. Tant que nous, le Centrafricain, on ne se réveille pas, on ne s'aime pas entre nous et on continue à accepter qu'on nous manipule de gauche à droite, on va continuer toujours à souffrir. On va rester dans la boue là des décennies et des décennies. Nous devons dès maintenant décider. Chaque Centrafricain doit réfléchir. Quelle est la Centrafrique qu'on doit laisser à nos enfants?
Est-ce que les enfants vont grandir là? Ils vont vivre comme nous, le même système de la souffrance, ouais, comme ça?
C'est pas un centre d'Afrique manipulé, quoi. On nous entraîne partout.
Après, à 10, si ça ne marche pas, on va dire quoi encore? Bon, allez-y à Brazzaville, allez voir Sassou encore.
Ouais.
Ou bien si ça ne marche pas à Brazza, bon, allez-y à Ndjamena, allez voir.
On
ne peut pas continuer comme ça.
À un moment donné, pour être ministre, il y en a qui allaient à Brazza ou à Ndjamena. Voilà. On est en train de réduire Khartoum, maintenant à 10. Mais je pense qu'on finira bien.
Voilà, l'avenir de la jeunesse, ça se trouve où? À ce niveau-là. Moi, je suis d'accord quand la jeunesse centrafricaine se manifeste aujourd'hui, qu'ils prennent leur diplôme pour dire qu'ils vont remettre ça à l'État. Mais ils ont raison.
Absolument.
Quand je passe la nuit, je vois comment ces étudiants, sur le lampadaire en train de lire, en train de souffrir, sur le banc de l'école, tu as tes diplômes, mais tu n'es pas valorisé. Quelqu'un qui prend l'arme,
il est valorisé.
Il suffit de... Il fait commet un crime, 2-3 personnes, on l'appelle, on le met au gouvernement.
Ça fait pitié.
Aujourd'hui, non. C'était quand on dit en Sangopo, c'était ministre Aga Bouba en Centrafrique.
Il faut que cela s'arrête un jour.
C'est quoi ça?
Merci à vous. Merci. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekelo Kaki. Je le rappelle, est consacré au blocage du processus politique en Centrafrique suite à la contestation du gouvernement issu de l'accord de paix de Khartoum et la rencontre du 18 mars prochain entre les signataires du dit accord à Addis Abeba. Merci à tous mes invités ici présents. Merci à tous les auditeurs qui ont accepté de rester à côté de leur poste pour suivre ce débat. Herman Nambona, la technique, Hippolyte Barbois, l'animation vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.